Donc de la moda, c'est-à-dire de cette contestation, vous vous souvenez que ça a beaucoup aussi, intrigué, mais que les commentateurs ont voulu éclaircir ce problème. Comment peut-on dire qu'il y a contestation sur le fait de ne pas accomplir la Torah? Est-ce qu'entre le moment de la révélation du Sinaï et le moment où, à l'époque de Pourim, les Juifs ont levé cette hypothèque en acceptant librement, est-ce que Dieu ne pouvait pas punir Israël? Alors, il y a plusieurs façons de voir ce problème. En particulier, le Etz Yosef pose le problème de façon suivante. Il dit, de toute façon, pour avoir le droit d'entrer en Eretz Israël, pour obtenir la terre, il y a aussi une alliance qui se fait. La terre ne s'obtient que contre la Torah et certaines mitzvot. Par conséquent, si Israël va être amené sur sa terre à violer les commandements qui font partie de l'alliance entre Dieu et Israël pour la possession de la terre, Dieu peut, même si on admet qu'il y a contestation, peut les punir. Et en particulier, le Etz Yosef met en évidence que les transgressions qui ont été faites par Israël et qui ont amené la destruction du premier temple et l'exil ont porté sur des mitzvot de la Torah écrite. Ils ont transgressé les trois, en particulier, lois fondamentales de ne pas faire d'idolâtrie, de ne pas commettre de crimes, etc. Par conséquent, la punition était possible même si on admettait qu'il y a une moda. Même si on admettait qu'il y a une ambiguïté, qu'Israël peut dire « De quel droit tu nous punis ?» Comme semble le dire Rachi, vous vous souvenez, Rachi dit, si Dieu les cite en justice et leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas accompli ce que vous avez reçu sur vous ?» Ils vont répondre « Nous l'avons su de force. » De toute façon, certains commandements de la Torah écrite, nous le savons, qui n'ont pas reçu de force. Vous voyez comment ce commentaire serait incompréhensible à qui n'aurait pas la connaissance de la différenciation de Torah écrite et Torah orale. On dirait mais de quoi il parle ici, la Yosef. Donc, punition est possible. Mais évidemment, ça c'était pour éclairer un point en disant, même si, c'est un raisonnement presque peut-être théorique. En réalité, le Rav Al-Kabetz va beaucoup plus loin. Le Rav Al-Kabetz dit, qu'est-ce qu'il y a marqué en réalité? De quoi s'agit-il? On nous dit, il y a du fait qu'Israël a reçu cette kfia de force, il y a le modaar, il y a une contestation possible. Et pour lever cette contestation, il faudrait donc acceptation libre, qui est à l'époque d'Assuérus. On nous dit, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, le Sheim Yasminom, le dîne, il le convoque en justice, etc. Mais le Al-Kabet fait remarquer la chose suivante. De quel jugement s'agit-il? Est-ce que vous avez souvent rencontré Dieu citer Israël en justice selon l'histoire? Il s'agit du jugement dernier. Il s'agit, mais Rachid le dit, c'est nous qui n'avons jusqu'à présent n'avons pas voulu lire. Nous avons lu avec nos a priori. Chaque fois que, non, lorsque Dieu convoquera Israël au moment du jugement, et ça se rapporte de façon absolument pachoute, de façon claire, à la Gemara d'Avodah Zara que je vous ai citée, qu'au moment du jugement, lorsque Dieu juge les peuples et juge Israël, et c'est à ce moment-là que les peuples disent « Est-ce que pour nous aussi tu nous as fait cette kfia ?» et qu'ils répondent, etc. Bon, que chez Yasminan, le jour du jugement, lorsqu'Israël sera aussi convoqué, Israël pourrait répondre cela. Pour lever cette hypothèse, il suffit qu'à un moment donné, même 3 minutes avant le jugement dernier, Israël démontre qu'il n'y a jamais eu ambiguïté de sa part. Autrement dit, de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé entre les siècles, pendant tous les siècles, entre le don de la Torah et l'époque de Mardoché, est une fausse question. Vous comprenez? C'est un faux problème. Le problème, puisque nous savons qu'en réalité, Israël accepte librement. Par conséquent, Dieu avait le droit de le punir. Et Dieu punit Israël. Par conséquent, ce n'est pas la peine même de faire la différence avec la Torah orale. Il y a une ambiguïté possible. Et il faut qu'Israël lève cette ambiguïté pour que les autres ne puissent pas dire ou qu'on puisse pas être amené à dire « Oui, mais Israël pourrait dire cela. » Et le Kliyakar le dit de façon très forte, le Kliyakar, le commentaire sur le verset, que c'est un taou, c'est une erreur. Et qu'il fallait lever cette erreur de lecture, de dire quoi nous sommes forcés, pas forcés au sens où le Maharal dit, n'est-ce pas, mais nous l'avons accepté de force. Et par conséquent, il suffisait, et c'est pour ça que Rachid le dit clairement, lorsque Dieu les convoquera, il ne pourra pas dire cela. Donc, peu importe à quel moment ils l'ont fait. Je crois que c'est très très important de voir cette lecture. C'est ce qui amène d'ailleurs également deux commentateurs à préciser deux points. Le Iyun Yaakov fait remarquer la chose suivante. Qui?
Non, 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 j'en ai. Un autre.
Je connais pas.
Fait remarquer la chose suivante. Il dit, qu'est-ce qu'il y a marqué dans le texte de la Gemara? Imatem kablim, si vous acceptez la Torah, mutab. Qu'est-ce qui est marqué dans le contrat avec la terre? Im Israël kablim et ta Torah, Israël et ta Torah, vous êtes... Pardon, imatem kablim mutab, bon, c'est bien, sinon. Israël me kablim et ta Torah, c'est bien, sinon. Il n'y a pas marqué kiyum, il n'y a pas marqué si Israël accomplit la Torah. Il n'y a pas marqué ni pour le contrat avec Israël, ni pour le contrat avec l'œuvre du commencement. Il y a marqué « si vous acceptez ». Le contrat ne porte que sur la Kabbalah, et ne porte pas sur le Kiyum. Alors évidemment, on peut se poser des questions, et c'est de nouveau le Rav Al-Kabet qui dit « eh bien, effectivement, d'ailleurs Rashi, ça le montre aussi, si nous savions lire Rashi a priori, que chez la terre a cessé de trembler, que chez Yikablou, lorsqu'ils l'ont reçu, lorsqu'ils ont fait la Kabbalah. Et Al-Kabet pose la question, il dit, le problème du Kiyum, la terre avait peur de quoi? Elle avait peur qu'Israël peut-être n'accepte pas. Et si Israël accepte, qui c'est Israël? C'est les Bené Abraham, Bené Yitzhak, Bené Yaakov, les descendants de Jacob, qui ont formé le peuple d'Israël, qui sort d'Égypte. Si ce peuple accepte la Torah, je n'ai pas peur, je suis sûr qu'ils vont accomplir. Le seul problème, est-ce qu'ils vont accepter la Torah? Donc c'est au niveau de l'acceptation, il suffit que la Torah soit acceptée pour que la terre soit tranquille, qu'il y aura Kiyum. Et même de la part de Dieu, cela veut dire que si le contrat était fait sur le fait de réaliser totalement la Torah, eh bien s'il y a faute ou s'il y a péché, à ce moment-là, ça mettrait en danger le monde entier et Israël. Ce qu'on demande de nous, c'est d'accepter la Torah. Si nous l'acceptons, c'est que nous voulons l'accomplir. Mais si nous l'accomplissons plus ou moins bien, plus ou moins mal, si le contrat était sur l'accomplissement total de la Torah, eh bien, ça serait évidemment intenable. Par conséquent, ce commentaire qui fait ressortir que l'alliance, le Tenaïm, la stipulation ne portait que sur la Kabbalah, est très important. Il ne fait d'ailleurs que nous montrer ce qu'il nous faut lire, mais cela a son importance. Enfin, le Harif, qui est un des très 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 grands premiers commentateurs du Talmud, lui, il va dans la même perspective. Il dit, voilà, la terre a tremblé au commencement, et donc avant qu'Israël dise Naaseh v'Nishma, et elle s'est calmée ensuite, dès qu'Israël dise Naaseh v'Nishma. Le Rive dit, bien sûr, mais on peut aussi lire d'une autre perspective. Un peu, si vous voulez, ça c'est moi qui ajoute, dans la perspective où Al-Kabet nous a fait lire que c'est à la fin des temps que le jugement se porte, il fait une analyse grammaticale très fine. Il dit, « Eretz yoro ve shokoto »« La terre a tremblé et s'est tue. » Il dit, il ne faut pas lire ça comme... de passé, mais comme il y avait un vase conversif. La terre a tremblé et elle sera calme. La terre a tremblé, veut chocolat. Non pas, et elle a été calme, mais elle sera calme. La terre a tremblé quand? Effectivement, elle a tremblé, bon, comme nous l'avons dit, avant la Kabbalah. Elle sera calme quand? Elle sera calme quand au jour du jugement, Dieu va convoquer tous les peuples, il va convoquer Israël. Et qu'au moment où c'est la suite de la Gemara, Vodazara, bon, je ne vous ai pas cité, que Dieu va demander au peuple, avez-vous accompli les mitzvot? Et les peuples répondront, est-ce que tu nous l'as imposé? Et que finalement, on va voir, est-ce qu'Israël a accompli la Torah? Oui, elle l'a accompli, et qu'on prend comme témoin, finalement, que ce sont les nations du monde elles-mêmes qui vont témoigner. Là, la terre sera tranquille, qu'effectivement, le monde a un avenir à la fin des temps aussi, parce qu'Israël, effectivement, a accompli. Voilà donc une lecture eschatologique que nous propose le Rif. Voilà, si vous voulez, quelques-uns des commentaires que j'avais donc étudiés pour éclairer ce texte. Je vous en ai sauté un grand nombre, parce que certains nous entraînaient trop loin. Par exemple, des commentaires méthodologiques. Rav Al-Kabet, qui consacre une dizaine de pages à expliquer le verset « qui mouve, qui bloue » simplement, en citant cette Gemara, nous pose la question. Il y a d'abord, la Gemara commence par dire « me l'amène ». Isiatsuvu, le Tarti Sahar, il se tient debout au pied de la montagne. Omar Rav Abdimi Bachomo, il enseigne, me l'amène, cela enseigne que. Et quoi, dit-il? Si Rav Abdimi n'avait pas été là, ce verset n'aurait rien voulu dire, et qu'il est superflu, et il démontre qu'effectivement, il y avait un autre verset au début de la Torah, au début du chapitre, où on disait que les Hébreux campaient au pied de la montagne. Et par conséquent, il suffisait de dire « Yotse, Moshe, Esoam, Kachas Elokim, Mimachane, Likras Elokim, Mimachane » et Moïse a fait sortir le peuple à l'encontre du Mimachane, et de rajouter « Et sur la tétatoire ». Par conséquent, ce verset n'est là que pour nous apporter un enseignement, et le Melamed est absolument justifié. S'il n'y avait pas eu l'enseignement de la Gemara, nous ne saurions pas ce que ce verset apporte. Il y a toute une série, vous voyez à quel point il y a une précision dans l'étude de justifier le fait même qu'il existe, j'allais dire, une Gemara sur ce verset. Également sur le Kimu Vekiblu, n'est-ce pas ? On s'étonne, il est écrit Kimu Vekiblu. On aurait dû avoir Kiblu d'abord, n'est-ce pas ? Ils ont accompli ce qu'ils ont fait. Eh bien, en réalité, là aussi, il y a toute une série d'explications, je n'en citerai qu'une. C'est qu'en réalité, trois versets avant, il y avait déjà marqué le Kibel Yavodim. Ils ont reçu. Par conséquent, ils avaient reçu quoi ? En ce qui concerne Pourim, le verset est clair. Alors, on ne va pas répéter une deuxième fois. Ils ont accepté la fête de Pourim. Puis on nous dit de nouveau, ils ont accepté. Ils ont Kimou, le Kiblou. Par conséquent, ce deuxième Kiblou est superfétatoire. Comme disent les universitaires, il est apparemment en trop. Et par conséquent, il ne s'applique évidemment pas à la réception des deux jours de Pourim. Kimou, le Kiblou. Ils ont ratifié, on pourrait traduire ici. Ça a été la ratification, le kiblou, de quelque chose qu'ils avaient déjà accepté auparavant, Torah Mishnah. Donc la Gemara est fondée à dire bien kimu ve kiblou, ça veut dire kimu, mash et kiblou kvar. Ça c'était donc une des... je vous ai sauté un grand nombre, mais de façon à vous donner l'essentiel. Donc maintenant, nous allons, si vous voulez, relire une fois rapidement le Talmud, avec tout ce que nous avons en tête, et avant de conclure, je vous montrerai... En réalité, j'essaierai de vous montrer que toute cette lecture que nous avons faite, c'est une des possibilités de lecture. C'est un niveau exotérique, c'est un niveau tout à fait simple, et qu'il y a d'autres niveaux de lecture. Je vous donnerai simplement un exemple pour vous montrer que l'on peut aller beaucoup plus loin, mais cela c'est à faire peut-être avec d'autres maîtres. Alors nous allons relire la Gemara, donc rapidement, et lorsque nous relirons cette Gemara, nous allons avoir en tête tout ce que nous avons étudié, ou le peu que nous avons étudié depuis lundi. Vaïsiatsevoun, chacun a son texte, avant-hier. Alors, Vaïsiatsevoun, Besartisaha. Et ils se tinrent debout au pied de la montagne. Malbim, je signale en passant des commentaires, je ne l'ai pas cité. Malbim, eh bien, Malbim nous dit, il y a le verbe, Yatsevoun, c'est plus fort que Omed. Amat, ça veut dire simplement être debout. Vaïsiatsev, ça veut dire, Malbim, c'est un commentaire du 19e siècle, ça veut dire être, se tenir debout avec la tête haute. Se tenir debout avec courage. Il fallait du courage, dit-il, pour être là au moment du matin de Torah. Être debout en rang, dit le Malbim. Être debout en rang. Le Tartisaha. Non, cette fois, c'est avec un
Aleph.
Avec un Aleph. C'est le verbe Yatsav. Et que dit Rashi ? Tout de suite, Rashi dit Tartisaha, Tachazaha Mamash. Donc le Rashi est clair. Ils étaient vraiment sous la montagne. Hein. Ce n'est pas une image poétique. Ça, nous l'avions compris. Omar Abdimi par Homo, Barosor Abdimi, fils de Homo, fils de Rosodi, Melamed, ce verset nous apprend quelque chose, parce qu'on n'avait pas besoin de lui, n'est-ce pas ? Melamed, chez Kofo, à quoi je vous parlais maintenant, Chédigis, que Dieu a retourné sur eux la montagne comme une cuve, et Rashi dit quoi ? Gigis, eh bien c'est Kuva, chez Matilin Bo, chez Chor, c'est une cuve. À laquelle on verse de l'eau de vie. Alors là, il y a des commentaires qui nous disent, eh bien, pourquoi une cuve ? Eh bien, en réalité, cela peut être compris d'une part, bon, si vous restez, c'est Rav Rotenberg qui m'a donné ce sens, si vous restez au niveau de la matière, si vous n'acceptez pas la Torah, eh bien, vous vous trouvez dans la pire situation, la situation limite, c'est l'homme qui est dans l'ivresse, dans l'enivrement de la matérialité la plus basse, qui, comme j'allais dire, il est enfoncé dans une cuve pleine d'alcool. Ça, c'est une lecture. Et les autres lectures, et vous avez même, vous verrez, dans l'édition de Steinsaltz, l'édition ponctuée, vous avez en bas, en tout petit caractère, un mot d'un rabbin commentaire dans lequel on dit, beaucoup de commentateurs ont expliqué que c'est le témoignage de la bonté de Dieu. Et comme nous, maintenant nous pouvons comprendre, au début on n'avait pas compris ça, et que c'est un petit peu, j'allais dire, comme une corne d'abondance. Dieu a retourné la montagne et il leur a déversé sur eux tout le bien. C'est la sortie d'Égypte. C'est tout ce qu'il a donné en bien, eh bien, voilà ce que représente. On pourrait dire aussi, peut-être, mais là, je te pose la question, que tout simplement, il s'agit de Chaim, Maim Chaim. L'eau de vie, c'est la Torah dont il s'agit. Je ne sais pas, c'est une question que je te pose. Là, j'avoue mon ignorance.
Non, je n'ai jamais trouvé ça.
Je ne sais pas. Il faut dire que Gigis, d'après la définition Pshat, là j'ai vérifié les sources, dans la Mishnah, le Gigit, c'était une cuve, effectivement, dans laquelle on versait des choses pour les fermenter avant Shabbat, pour qu'on puisse utiliser Shabbat. Donc on peut aussi dire que sur le plan du Pshat, simplement, Rashi explique ce que c'est que Gigit par rapport à la Mishnah de Shabbat dans laquelle c'est expliqué. Mais au niveau du sens symbolique, je vous avoue que je me suis beaucoup posé la question, que je n'ai pas trouvé donc de réponse dans des textes
que j'ai étudiés. La seule chose que je pourrais dire, c'est la relation entre Yénar Shel Torah, c'est-à-dire la connaissance et la préparation du vin. Mais si vous permettez, je ne sais pas qui je vais faire plaisir, mais je vais vous donner un petit renseignement.
Ah non, juste c'est sur ça, d'accord. Il est là.
Vous savez qu'il y a beaucoup de juifs nord-africains qui s'appellent Gigi ou Ben Gigi. On s'est toujours demandé avec mystère, qu'est-ce que c'est ce mystère. Mais ce nom, ça vient ni berbère ni arabe. C'est certains juifs d'Espagne qui ont été à Nussim et puis qui sont revenus au judaïsme.
Ça a été converti de force à Nussim.
Oui, qui ont pris ce nom-là, Gigi ou Ben Gigi. Et ça se réfère à cette source-là. En particulier à Mostaganem. Je ne sais pas si vous savez où était Mostaganem. Il y a une grande famille de rabbins Ben Gigi qui venaient d'Espagne et qui étaient des oncles dans cet ordre. Et ils ont dans leur tradition familiale que c'était pour indiquer qu'ils étaient vraiment des juifs, puisque la Gamatria, c'est 26. 13, 13, vous savez. Si vous avez un ami d'Alibi, avec respect.
Alors je continue. Omar Lohem, et Dieu leur a dit, Imatem me kablim ha Torah, si vous acceptez la Torah, et vous voyez, je rappelle dans cette Gemara, il n'est pas question de différence entre Torah écrite et Torah orale, mais nous savons maintenant, il faut lire, si vous acceptez la Torah, bon, avec tout ce que nous avons vu derrière, Mouta, bien, et là on peut lire aussi, certains commentaires le disent, ça veut plus dire bien. Moutav, vous aurez du bien, vous aurez tout le bien, Moutav, c'est pas seulement l'adverbe, Moutav, donc le bien que contient la Torah, Torah écrite et Torah orale, le Imlav, et sinon, Shom, Tehe, que vous rasserez, là-bas sera votre tombeau, là-bas, c'est tous les endroits où il y a dégradation, c'est-à-dire en particulier en exil, là-bas vous ne pourrez pas tenir sans Torah orale, et aura, sera votre, il n'y a pas marqué le mot mort, comme je vous l'ai rappelé l'autre jour, Kfoura, le Kiyakar l'explique, c'est le lieu de non-résurrection. Ben, là sera votre fin. Là-bas, en diaspora, en galout, sera votre fin. Shom, c'est que vous rasserez. Et non pas ici, sur place. Et c'est, malheureusement, nous le voyons, hélas, ce qui se produit. Lorsque Israël abandonne en exil la Torah orale, les Sadducéens, les Caraïbes ne subsistent pas. Alors, nous continuons. Omar Rabbi Achaba Yaakov, Mikan Modo Araba Loraïso. De là, il y a une contestation, je dirais, possible pour Israël. Et là, le Rashi, vous voyez comme Rashi est précis. Rashi vient nous dire que chez. Qu'est-ce que ça veut dire contestation? Ne comprenons pas de travers. Chez Im Yasminom le Din, le jour où Dieu, au jugement dernier, va citer Israël en justice, en disant l'homo. En leur disant pourquoi n'avez-vous pas accompli ce que vous avez accepté sur vous, Yesh Lohem Tshuva, ils pourraient répondre, Shikiblou, Bohonet, qu'ils l'ont reçu de force. Donc, ça ne porte que sur le Kiyum, pas sur la Kabbalah, puisqu'Israël, de toute façon, était d'accord pour la recevoir, mais ils pourraient dire, ah, nous on voulait, il y a même un autre commentaire que je n'ai pas cité, c'est le Rif qui dit, qui lui disait, les Juifs ont dit Nasé Benishma, et ils sont venus la tête haute tout contents. Lorsque Dieu leur a fait la fille, ils sont vexés. Ils disent quoi? Nous on est d'accord, n'est-ce pas? Et tu nous forces, d'où la moda. Le Rif renverse complètement la lecture. Parce que le Rif dit la chose suivante. Le Rif dit, la Torah, il ne faut pas lire que c'est Moracha qui a Jacob, mais Morasa, fiancé. Eh bien, vous vous souvenez le début du Midrash, que Dieu est venu à la rencontre d'Israël, comme un fiancé va à la rencontre de sa fiancée. Eh bien, le Rif ne le dit pas, mais ça ressort clairement de sa lecture, c'est la Roupa. La montagne que Dieu met au-dessus de l'Israël, c'est la roupa. Vous connaissez tous le fait que à Pessah, la sortie d'Égypte, c'est les fiançailles. Shavuot, c'est le mariage. Et la Torah, eh bien, c'est le contrat de mariage. Et Sukkot, eh bien, on s'installe ensemble pour la vie commune.
C'est les sept jours de la vie commune.
Par conséquent, le rite, eh bien, cette pifia, Dieu a renversé sur eux la montagne comme une roupa, et les Hébreux ont été furieux en disant, mais quoi, alors qu'on est d'accord, tu nous forces. Oui, mais il était nécessaire, nous l'avons vu par le Maharal, Israël était d'accord, mais du point de vue de Dieu et de la Torah, la pifia était nécessaire. Vous voyez, bon, tout cela, nous avons dans la tête maintenant, pendant que nous lisons ce texte.
Et d'ailleurs, la choupa, c'est ça, la kfia.
Absolument.
On transforme de force les fiançailles en mariage.
Ce qui était de bon. Mais il faut d'abord être d'accord. Il faut d'abord que les deux partenaires soient d'accord.
Ça me rappelle un sermon rabbinique. Vous qui êtes sous ce bonnet nuptial.
Alors, il y a eu Modar à Rabat. Omar Ravo, Rabat dit, « Afalpiken, même si on est ainsi, même si on peut craindre donc une contestation à la fin des temps, Hadour Kiblo Imer Hachverouch. » Ils l'ont reçu à l'époque d'Assuérus. Et là aussi, il y a marqué Assuérus à Mordechai. Bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Dirsif, Bimera Arachverouche, et Rachid dit clairement, mais à Havas Hanes, Chenas Solorem. Je vous ai hier, n'est-ce pas, dit, eh bien, par amour du miracle qui a été fait pour eux, c'était nécessaire que Rachid dise là pour bien montrer que là, il y avait Ahava, il y avait amour libre, vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ils ont reconnu que c'était un miracle, alors que ça n'apparaissait pas. Vous vous souvenez hier, nous en avons parlé.
Al-Tikré nécessaire et la nécessaire.
C'est en pleine forme, je vois. C'est encore en...
Je dors.
Alors, c'est ton effet, je t'y parle. C'est ton effet, j'y veux bien. Alors, donc, Afapiken, donc à l'époque d'Achérut, et le Rashi, par conséquent, qui nous paraissait incompréhensible, n'est-ce pas? Et tout à fait clair, au contraire. Rashi nous oblige à lire comme il faut. C'était nécessaire que cela fût fait avec amour et librement. Dirtiv, comme il est écrit, Kimu Vokiblu à Yehudim, les Juifs ont et Kimu ratifié, et ils ont fait, Yehudim, les Juifs, n'est-ce pas, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté, Vachikiblu Kfar, Omar Hiskio, alors là, Hiskio cite ses célèbres versets, Maï Dirtiv, c'est ce qui est écrit, Mishomaï Mishmato Din, du ciel, tu as fait entendre Din. Et Rachid dit, c'est Torah. Et il y a d'autres commentaires, je n'ai pas eu le temps de vous citer. Mais on peut lire, c'est le Marsha. Le Marsha, c'est la Gemara qui dit, eh bien, pourquoi est-ce qu'on lui dit? On pourrait lire aussi Din Mamash. Pourquoi Rachid dit Torah? Rachid dit Torah pour qu'on comprenne que ce verset, c'est bien notre sujet, mais on pourrait dire Din au moment où Dieu a donné la Torah, il y avait un jugement porté. Parce que le jugement, c'est si vous acceptez, si vous n'acceptez pas. Donc il y a bien Din. Et il dit, si Rashi introduit ici le nom de la mention de Torah, il ne faut pas que ça ne fasse oublier que le pshat reste valable. Mishomayim tishmato din, du ciel, qui nous a fait, en donnant la Torah, tu as fait descendre un jugement.
Juste une petite question par rapport au commentaire que tu as cité. Si il s'agit du jugement dernier, du din du jugement dernier,
oui.
Alors pourquoi la terre a peur? Puisque de toutes les façons, au jugement dernier, elle disparaît, la terre. De quoi elle a peur? Non, je pose la question, je n'ai pas de réponse.
C'est le jugement.
Non, il faut réfléchir, il faut apprendre.
C'est une bonne question.
Si. Les prophètes sont très clairs. Notre ciel et notre terre seront transformés. Ça partira en fumée, on n'aura plus besoin. Enfin, on verra bien, mais on ne peut pas expliquer de quoi il s'agit, mais le verset est clair. Il faudra la transfiguration du monde. Donc.
En tout cas, dans la perspective du Rabbal Kab.
Oui, mais au jugement dernier, la terre retournera au néant.
Si au jugement dernier, on sait que la terre s'arrête.
Oui.
Non,
non, mais la terre a peur que si jamais Israël n'accepte pas la Torah, c'est mauvais pour elle.
Non, il dit qu'elle sera rationnelle. Non. Israël a eu peur avant. Il dit qu'elle sera tranquille. Oui,
mais le Ravan...
Oui, c'est ça, absolument.
Le Ravan, il a peur.
C'est pourquoi, d'ailleurs...
C'est sûr, mais les prophètes ont indiqué que ce monde matériel qui est vivant disparaîtra. Nous montrons dans un autre monde supérieur.
Et si la terre est simplement la terre, elle ne peut pas avoir peur. à 20h.
Non, non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Maïmonide.
Le fait de la dispersion.
Non, mais de toutes les façons, c'est pire pour elle au jugement d'elle. Écoutez, Maïmonide a dit tous les mondes sont vivants. Nous savons que la forme de vie de notre monde, c'est les êtres vivants que nous connaissons, les êtres animés. Dans les autres mondes, nous ne savons pas quelles sont les autres formes de vie, mais nous savons qu'ils sont vivants.
Pardon. Mais la Terre est une création de Dieu, alors la Terre est aussi porteuse d'esprit divin, et si Israël a cette totale esprit divin, alors c'est l'esprit divin qui est mis.
Non, je vais vous expliquer la question. Je vais vous expliquer la question. En vous donnant une comparaison. Notre nefesh, notre personne, ce n'est pas notre corps. Notre corps est le véhicule, la demeure de notre nefesh. Et il en devient vivant, ce corps. Bien. Or, à travers le temps de notre vie, ce corps se transforme, je veux dire, se renouvelle. Okay? Oui, il y a un problème de savoir si les cellules nerveuses, elles, se renouvellent, mais en tout cas, l'irval. Et par conséquent, j'ai eu un corps qui a disparu, et je continue à être. De même, la terre est le corps de l'humanité, si vous voulez. À partir du moment où l'être de l'humanité n'a plus besoin de ce corps, elle disparaît. Bon. Par conséquent, pourquoi elle a peur de disparaître, dans tous les cas, elle disparaît. Ça m'a dit.
Moi, j'avais simplement cité ce livre comme une des lectures, n'est-ce pas, enfin, oui. En commentaire. Mais la Gemara et Rashi et le Rabbi Shir ne citent pas. Le livre est le seul qui cite cette lecture, n'est-ce pas. Dans la cohérence de notre Gemara, que nous lisons ici,
ah non, c'est une lecture très forte. Mais là,
c'est ça, oui. C'est ça, je veux dire. Mais en tout cas, c'est pas la lecture que donne Rashi, n'est-ce pas? Je fais remarquer que la lecture que de la Gemara avec Rashi, il n'y a aucune difficulté, puisque Rashi dit, nous fait lire, au contraire, dans la cohérence d'ailleurs du Maharal, Im yoro lo moshokto. Si elle a eu peur, pourquoi elle a été tranquille? Im shokto lo moyoro. Et si elle a été tranquille, pourquoi elle a eu peur? Et le batrilo yoro. Batrila, Rashi dit clairement, Kodem, Shomo, Israël, Nase Venishmo. Donc ce Rashi, nous le comprenons maintenant, avant qu'Israël dise Nase Venishma.
Ça s'est passé au soleil.
Ça s'est passé, oui, il suffisait, ça c'était pour la crainte. Et quand est-ce qu'elle a été rassurée? Ou le Bassof, Shofto, Bassof. Ah oui, pourquoi est-ce qu'il a eu peur, dit Rashi, il y aura pourquoi, chez Mo, lo yet kabluo, le yarzor olom le tovabou. Il a eu peur qu'il n'accepte pas, donc ça porte bien sur la Kabbalah, et que le monde retourne au tovabou, et Bassof, quand c'est la fin, que chez Kibluo, dès qu'ils l'ont accepté. Donc c'est la lecture cohérente, qui est aussi celle de Al-Shir, n'est-ce pas? La lecture, dès qu'il l'a accepté, la terre a été rassurée.
Je vous signale d'ailleurs qu'il y a une dimension un peu cosmique dans cette lecture, puisque c'est à partir de ce temps, qui est le temps d'Assuérus, que le calendrier a été fixé par calcul, parce qu'il y a eu stabilisation des mouvements du système solaire. Et y a eu, bon, jusque-là, il fallait observer l'apparition de la Lune. Bon. Et je vous cite d'ailleurs le verset de Isaïe, je vais vous donner la référence, mais on peut la trouver, voilà le petit verset, « Ve'aret ka-beged kirle » et la terre se flétrira comme un vêtement, vers Shamaïm, Kerachan, Imlachou. Et les cieux se dissiperont comme la fumée. Le verset est clair. Alors, on revient. Et la peur, c'est...
Alors, nous continuons rapidement dans la lecture de la Gemara. Et tout cela est conforme à l'enseignement de Reish Lakish. De Omar Reish Lakish, comme a dit Reish Lakish. Maïdirsif, que signifie Vayere, Vayevoker, Yom, Hashishi. Qui soit le matin, jour le sixième. Et Rashidi, Yom, Hashishi. Maïd. Cheno dirsif he be yom gemar masse bereshit. Quel changement y a-t-il qu'il est écrit le he, le jour du complètement, de l'achèvement de l'œuvre du commencement. Et vous vous souvenez qu'on avait vu que ça veut dire, il ne faut pas dire seulement le sixième jour, mais que c'est tout l'œuvre du commencement, c'est tous les vayere vayevoker qui sont impliqués là-dedans. Alors, melamed, yotera, he yotera la moli, qu'est-ce que j'ai besoin de ces jours en terre, melamed, chez Hisno Akodesh Boru Ima Sebereshis, Dieu a fait une stipulation avec l'œuvre du commencement. Vraiment, alors, il a dit, Israël me kalim la Torah, si Israël me kabel la crête de la Torah, Atem Iskaimim, vous subsistez, Imlov, et sinon, Animar Zirefrem le sauve, je ramène entre vous. Que dit Rashi? Rashi dit, Hashishi, Mashma, Hashishi, me yuchad, le sixième, ça se rapporte un sixième qui est bien défini, comme on l'a vu dans la Gemara Cholin au sujet de la hanche droite, etc. Afkan, ici également, va y arriver à évoquer chez Gemara.
Le 6 Sivan.
C'est ça. Il va le dire maintenant. Va évoquer Shel Gemar Bereshi, le Ifisoa sur matin qui complète. Voilà comment il faut lire. Va Yere va évoquer et tout ce qui précède de Tibereshit, Toloui, cela dépend de Yom Hashishi, du sixième jour qui est, lisez Rashi, Toloui, de Yom Hashishi, de Hu. Shishi Besivan, qui est le 6 Sivan, chez Nisno Botora, au côté qui a été donné la Torah, ni Riboui de He, c'est de fait qu'on a ajouté un He, Teresh Beiman. Et Rashi, vous voyez, ne cite pas ici, si certains commentateurs ont posé la question, ne cite pas son commentaire, que c'est les 5 livres de Moïse, parce qu'il reste dans la cohérence de notre lecture de la Gemara, qui s'applique à toute la Torah écrite et orale. C'est nous qui avons vu que pour Israël, il y a une différence, et que pour la terre, il y a une différence. Mais au niveau de la Torah, dans son essence, son etsem, eh bien, la kfiya, elle se fait pour l'ensemble. Voilà un petit peu. J'espère l'année prochaine, lorsque nous serons amenés à relire la Torah, et lorsqu'on lira Vaïssa Tzoubetai Zahar, on aura peut-être, dans une vision panoramique, au moins ce que dit cette Gemara. Vous savez, on raconte, et quand je dis on raconte, c'est un fait, le Gaon de Vilna, bon, c'était le Gaon de Vilna, il dormait toute sa vie, c'est pas un des légendes, il n'y avait qu'au XVIIIe siècle, c'est quelqu'un que nos grands-parents ont connu, des gens qui avaient connu le Gaon de Vilna. Il s'était enfermé dans une chambre, il s'était fait construire dans une maison qui était à côté de la communauté lui avait donné, sans qu'il paye de location, et il fermait les volets, jour et nuit, il fermait les volets, et il ne mettait pas de chauffage, ça se passait à Vilno. Quand il fait froid à Vilno, non. Et alors, en plus, vous savez ce qu'il faisait? Il avait mis un baquet, m'excuse, c'est pas par hasard, c'est pas une cuve, un baquet rempli d'eau glacée, il avait les pieds dedans, pour être sûr de ne pas être, donc les volets fermés pour ne pas être distrait, et pour ne pas s'endormir. Et il dormait que toute sa vie, il a dormi que maximum de 3 heures par nuit, et toujours par fraction d'une demi-heure. Et alors, le garde de Vilna, on dit donc de lui, quand je dis on dit, c'est pas une légende, que le Gaon de Vilna, lorsqu'il y avait devant lui, il lisait la Torah écrite, hein, c'était une mémoire bordard, le Rav Dil, comme je le dis souvent, chaque lettre, chaque signe de la Torah, quand il y avait devant lui, il voyait immédiatement, dans un déroulement synoptique, tout ce qui se rapporte à ce mot dans la Torah orale, c'est-à-dire dans toute la Gemara, dans tous les Midrashim, dans toute la Kabbalah, enfin dans tout ce qui avait été dit depuis. Alors, c'est pour ça que je dis, je nous souhaite à nous que l'année prochaine, lorsque nous irons voir ce Tayara, qu'au moins nous ayons cela. Je vous le disais que ceci, ce n'est qu'un tout petit fragment de lecture, et pour vous montrer que ce n'est pas par modestie que je vous dis ça, mais que c'est vrai, je vais vous donner une possibilité pour montrer comment, par exemple, dans tout à fait un autre registre, et il y a 30 autres niveaux de lecture, enfin, 30, c'est pas assez.
3 600 000.
Voilà. C'est ça, oui, de lecture. Voilà, par exemple, comment un kabbaliste, presque contemporain, puisqu'il s'agit du Ben Ishraï, qui est donc un commentateur contemporain, et le Ben Ishraï est apparu en 1898. Et l'auteur il vivait à Bagdad, et il est mort dans les années 1910. Il dit, voilà, comme toujours, quand on va en profondeur, c'est comprendre à la lettre l'esprit de la chose. Il dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le verset ? Vaïsiatsevou de Sarti Sahar, n'est-ce pas ? C'est ça le verset que nous étudions depuis 4 jours, sur lequel nous suons un petit peu, comme il dit dans Tanhuma, qu'il faut se meimit atzmo, qu'il faut se tuer soi-même pour arriver à comprendre. N'est-ce pas ? Eh bien, qu'est-ce que nous avons lu depuis 4 jours ? Bah, ici, à ce groupe, c'est parti, Sahar. Il était debout, en dessous, du Har, n'est-ce pas ? Mais là, vous dites montagne. Il est écrit aussi, bah, ici, à ce groupe, c'est parti, Sahar. Il était en dessous de Har. Et alors, dit le Ben Ishraï, Har, c'est les lettres He et Reish. N'est-ce pas ? Ils étaient sous Har. Qu'est-ce qu'il y a sous la lettre He ? Il y a la lettre Vav. Alevei, Gimel, Alevei. Qu'est-ce qu'il y a sous la lettre Reish ?
Chine.
Yashin. Très bien. Alors, si nous mettons ensemble, si nous mettons ensemble ces quatre mots, nous avons Shura. Et Shura, vous vous souvenez que vous avez dit que c'est une rangée. Et alors, il explique que rangée, c'est un minimum de trois. Et la Gemara qui précède immédiatement notre Gemara, vous avez raconté que c'est des louanges au Dieu unique qui a donné la Torah triple, composée de Torah,
Nevi'im,
Tanakh. Au peuple qui a une triple sainteté, une triple Kedusha, les Kohanim, les Lévites. Au troisième né, Moshe Rabbeinu, c'est troisième né, le
troisième mois.
Et Shura, c'est un minimum de trois. Et ils étaient en rangée, comme l'expliquait le Malvin, n'est-ce pas, il se tenait. Alors, par contre, nous savons aussi que Moïse a été appelé à monter au-dessus. Dieu a appelé ensuite Moïse à monter au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de Har? Au-dessus de Har, il y a un 4. Alors, si on met ensemble ça, c'est que des rats. Et que des rats, ben, c'est la cuve. C'est le bassin. Vous verrez dans le Steinsalz, on vous explique où va, c'est que des rats, un grand récipient. Et maintenant, si nous prenons ensemble ça et ça, c'est-à-dire ce qu'il y a au-dessus de la montagne, et ce qu'il y a en dessous de la montagne, et d'être là, eh bien, ça forme Kadosh. Ce que Dieu voulait, n'est-ce pas? Alors, je vous ai cité cela sans le commenter, ce texte, pour vous montrer, voilà, par exemple, comment...
Il faut un commentaire et un commentiel.
Voilà, par exemple, j'ai le texte ici, c'est-à-dire que n'importe qui peut le lire. Le lire, c'est pas difficile. Je l'ai lu, il suffit de connaître l'hébreu. Je l'ai là, il le dit tout à fait comme je vous l'ai dit. Voilà, par exemple, mais vous voyez que nous avons donc lu dans notre texte. Alors, moi, je vais revenir très modestement à notre niveau. Et pourquoi, n'est-ce pas, j'avais appelé d'un terme qui pouvait paraître un peu pédant, nécessité et liberté, Torah écrite et Torah orale. C'est que je crois que, véritablement, ces deux choses sont dans un rapport non seulement étroit, mais je dirais presque à la limite, j'allais dire que c'est pas la même chose, mais c'est de la même modalité dont il s'agit. Et voilà comment... si vous voulez, je conclurai là-dessus. Nous avons dans le chapitre 32 de l'Exode, lorsque justement Dieu donne finalement les tables de la loi à Moïse, qui descend avec ces tables de la loi, c'est donc Exode chapitre 32, verset 16, il est écrit la chose suivante, que dans le verset 15, on dit Dieu est descendu, il tenait dans sa main les tables de la loi, est écrite, alors j'arrive au verset 16, ve haluchos et ses tables, masse elokim heimo, elles étaient l'œuvre de Dieu, ve hamirtov, mirtav elokim hu, et l'écriture, c'était l'écriture de Dieu, lui-même, chorus al haluchos, gravé, c'était gravé, chorus, sur les, gravé sur les tables. Et alors, vous savez que le mot chorus est un apax, c'est-à-dire que ce mot ne se trouve qu'une seule fois dans tout le Tanakh. Et ça vient donc d'un verbe théorique ravat, qui signifie graveur. Et nous avons une dans le Pirkei Avot, Mishnah, c'est Pirkei Avot 6, 2, qui nous cite donc ce verset et qui nous dit Altikro chorus, ne lis pas chorus, puisqu'il s'agit, comme vous savez, la Torah qu'on lit. Synagogue n'est pas ponctuée. C'est la tradition qui a fixé la façon de lire. Par conséquent, on ne change absolument rien en remplaçant simplement, vous voyez ici un kamat, par un tséré. Altikro chorus et lo chérus. Ne lis pas gravé, mais liberté. Le mot chérus, aucune allusion à la contemporanéité, c'est pourtant un mot post-biblique. Chérus n'existe pas en hébreu biblique, mais Herut existe à l'époque, donc Mishnaïque. Eh bien, ça veut dire quoi? Lorsque Dieu donne la Torah, elle est donnée dans la nécessité. Mais l'enseignement de la Torah orale, c'est de dire, là où il y a nécessité, ne lis pas seulement nécessité, mais lis liberté. Et le Pirkei Avot qui cite cela en disant « Altikro Horus et Loherus » ne lis pas gravé, mais liberté, chez Ein, le Ho, Ben, Horin, et l'Omi, chez Osek, le Talmud Torah. Car il n'y a d'homme libre que celui qui s'occupe au sec, vous l'expliquez autre jour, intensément, jour et nuit, complètement, de la Torah. Alors, je crois que parler de nécessité de liberté, qu'est-ce que c'est que le juif pharisien, et peut-être je serai amené à en reparler dimanche au cours de la table ronde, c'est celui qui sait, grâce à la Torah orale, lire dans la nécessité la liberté. Oui, c'est vrai, nous avons reçu la Torah par Kefia, mais cela était nécessaire, c'est pas l'inverse. Il n'y a pas marqué liberté dit nécessité. Il faut d'abord, parce que ça vient de Dieu, que c'est donné dans la nécessité. Mais cette nécessité, nous savons y lire également liberté. Ce n'est pas Éluard, n'est-ce pas, j'écris liberté. Ce n'est pas partout où je veux, j'écris liberté. Là où je vois nécessité, je sais, moi, juif pharisien, avec la Torah orale, lire également liberté, parce que librement, j'accepte de me plier à la nécessité de la Torah. Et alors, si vous me permettez de conclure peut-être par un ridouche, Gershut, arabe, vous savez qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Vous savez qu'il y a 613 commandements dans la Torah. Eh bien, c'est très difficile à accomplir, n'est-ce pas ? À faire toutes les mitzvot, on dit qu'en Israël, tous les juifs sont
ensemble
pour les faire, si bien qu'il y a une bonne blague d'ailleurs comme ça. Il disait, bon, chacun, il y a un juif qui a dit, bon, chacun, c'est écrit que chacun fait ce qu'il peut. Voilà. Chacun fait tel mitzvah, chacun fait tel mitzvah, puis ensemble, tout Israël a fait les mitzvot. Alors, moi aussi, je fais ce que je peux. Je ne mets pas les tefillin à Tisha B'Av. Je mange bien et rêve Yom Kippour, parce que c'est une mitzvah écrite en toutes lettres de bien manger Yom Kippour. Bon, il n'a pas dit qu'il ne jeûne pas Yom Kippour. Il fait aussi des mitzvot. Bon. Mais bon, ça c'était une blague. Bon, alors, il y a 613 mitzvot, 613 commandements, et la valeur numérique, la gematria de Harout, c'est 614. Alors, voilà le ridouche que je veux vous faire, 614, la tchouva en plus. Parce que si nous sommes libres, si nous visons liberté dans ce qui est nécessaire, s'il y a liberté, eh bien, il y a le risque de fauter. Accomplir 113 mitzvot sans fauter, ce n'est pas possible. Mais la tchouva existe. La possibilité de se repentir, la possibilité donc de regretter, pas au sens où les juifs auraient regretté d'accepter la Torah, ils n'ont jamais regretté, mais de regretter de se trouver en faute de la Torah. La tchouva existe, et elle existe impliquée là-dedans. Il y a en réalité 614 mitzvot, 613 sont possibles grâce à la tchouva. Al tikro chorus elo chérut. Ne lis pas nécessité seulement, liberté aussi. Nécessité et liberté, Torah écrite, Torah orale.
Vous savez que c'était 614. Donne-moi le crayon.